SBS Audio is supported by advertising.
American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième partie de notre mini-série sur l'histoire de l'immigration. Comme je vous l'avais dit à la fin du dernier épisode, on va s'intéresser grosso modo aux 25 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, une période où l'Australie se rend compte plus que jamais qu'elle manque de bras, qu'elle manque de monde et qu'il lui faut absolument augmenter la taille de sa population. C'est une période et une politique qui est résumée en général par « populate or perish », « peupler ou périr ». On a à nouveau le plaisir d'avoir avec nous l'historien Romain Fatti. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a tendance à l'oublier, en tout cas moi et les auditeurs originaires d'Europe qui écoutent, que la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des affrontements également extrêmement violents dans cette partie du monde, et pas seulement au Japon et aux alentours, mais dans tout le Pacifique. L'Australie elle-même a été touchée, et au cours de cette période, l'Australie a eu très très peur, elle s'est rendue compte qu'elle était particulièrement vulnérable.
Tout à fait. Alors, évidemment, pour nous, la Seconde Guerre mondiale... On a les yeux tournés vers l'Europe, puisque la France est envahie. Mais une guerre sans merci se livre dans le Pacifique, hein, surtout à partir de Pearl Harbor en 1941, où les Japonais déferlent à une vitesse absolument monumentale dans toute la zone Asie-Pacifique. Et l'Australie, bien évidemment, se retrouve sur cette route. Les Britanniques sont défaits à Singapour et la Royal Navy qui devait protéger l'Australie rentre à la maison pour protéger l'Angleterre et les Australiens se retrouvent tout nus, sans protection, une peur monumentale, si bien qu'au lieu de frapper à la porte de Londres, ils se dirigent vers Washington. Ça, c'est le grand tournant de la moitié du XXe siècle en Australie qui la rapproche, qui la met dans le giron des États-Unis dans lequel elle est encore. Et donc, les Australiens ont eu une peur vraiment très importante d'être envahis par les Japonais. Alors ça, c'est un grand mythe hein, australien. Aucun historien japonais ou australien ou britannique ou américain n'a réussi à démontrer que l'armée impériale japonaise voulait envahir l'Australie. Ça, c'est un mythe. Les Australiens aiment bien se le raconter, mais ce n'est pas vrai. En revanche, ce que l'on sait, c'est que Darwin a été bombardé de très nombreuses reprises par les Japonais. Et donc, que les Japonais n'aient jamais eu la vue de conquérir l'Australie ne veut pas dire que les Australiens n'aient pas eu peur à raison. Les Japonais sont aux portes de l'Australie. L'Australie ne peut pas se défendre. L'Australie devient une base américaine. Entre 42, 43, 44, vous avez des centaines de milliers d'Américains. En fait, en 44, je crois que vous avez une personne sur 8 ou 9 qui est américaine en Australie. Donc, construction de voies ferrées par les Américains, construction d'aéroports. Enfin, les changements sont exceptionnels. Et donc, l'Australie, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, est totalement consciente du fait que sa population est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petite pour survivre dans cette partie du monde. Et que si l'Australie, comme elle est, veut pouvoir survivre, il faut peupler ou périr. Alors, est-ce que vous voulez que je vous explique ce que c'est que cette politique, peupler ou périr ?
Ah ben oui, avec grand plaisir, oui, bien sûr.
Alors, elle est mise en place donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale par le premier ministre de l'immigration australienne qui s'appelle Arthur Calwell. On est à un moment où la population de l'Australie, en 44-45, c'est juste un peu plus de 7 millions d'habitants. Donc, c'est rien du tout. Par ailleurs, avec les pertes de la Seconde Guerre mondiale, non seulement les pertes de soldats, fertilité, etc., c'est une population qui est en déclin. L'Australie a peur du nouveau monde qui se met en place et décide de peupler. Pour ce faire, le gouvernement fixe deux objectifs. Un objectif principal qui est la croissance de la population à un minimum de 2% par an, ce qui est le seuil où on peut commencer à progresser, avec au minimum 1% obtenu par la natalité et au minimum 1% obtenu par l'immigration. Ce qui veut dire qu'il faut ouvrir ses frontières de façon colossal. Donc c'est un changement complet par rapport à la politique d'immigration restrictive d'avant-guerre, où là, l'Australie veut pouvoir importer le plus de migrants possible pour se peupler et augmenter sa population.
Et donc, vous le disiez, enfin, d'un coup, cette politique migratoire ultra restrictive, en gros limitée aux Britanniques, aux Irlandais, enfin, ce qu'on appelle les Anglo-Celtiques, s'ouvre un petit peu. Et bah, l'Europe sort d'une guerre terrible, elle a été dévastée, c'est la crise un peu partout. Et à ce moment-là, on a notamment une arrivée massive en Australie d'immigrés du sud de l'Europe, des Italiens, des Grecs en particulier. Ça, c'est nouveau pour
Alors,
l'Australie.
Il va falloir attendre un petit peu, Grégory.
Ah.
C'est-à-dire qu'au début de la politique Populate and Perish, le ministre de l'immigration, Arthur Calwell, qui est une personnalité assez flamboyante dans la politique australienne, explique aux Australiens que pour chaque étranger, il y aurait au moins 10 personnes qui viendraient du Royaume-Uni, hein, qui ne sont pas considérées comme étrangers. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, périr, l'objectif est de recruter le maximum de Britanniques possible. Donc, l'Australie déploie des banderoles, des camions, fait des tours dans la Grande-Bretagne pour montrer des films sur l'Australie, pour convaincre les Britanniques de venir s'installer en Australie. Parce qu'il faut le rappeler, en sortir de la Deuxième Guerre mondiale en Grande-Bretagne, c'est pas optimal. Hein. Vous avez des tickets de rationnement jusqu'à assez tard. Donc, beaucoup de Britanniques se dirigent vers le Canada, vers les États-Unis, ce qui est quand même beaucoup plus proche que l'Australie. Le problème, c'est que l'Australie n'est pas assez attrayante, que c'est loin, que ça coûte cher. Donc, le gouvernement essaye de sponsoriser les Britanniques en leur donnant de l'argent pour venir, hein, tellement ils sont désespérés pour pouvoir augmenter leur population. Et devant le fait qu'en réalité, il n'y a pas assez de Britanniques qui viennent, hein, en 1947, je crois qu'il n'y a que 23 000 migrants britanniques qui arrivent. C'est pas assez. Donc, Calwell dit, attendez, vous avez des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées pendant la Première Guerre mondiale. Je vais aller recruter ceux qui sont le plus blancs. Donc, je vais importer les beautiful Balts, les beaux Balts, c'est-à-dire des corps blancs, des cheveux blonds, des beaux Balts. Voilà. Donc, c'est la propagande qu'il met en place, où il fait arriver des bateaux de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ne parlent peut-être pas l'anglais, mais qui ont l'air suffisamment anglo-celtiques. Et donc, évidemment, les personnes des pays baltes, à un moment où on est quand même sur la polarisation du monde, début de guerre froide, cherchent à quitter ces espaces soviétiques. Mais pareil, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, et donc la politique de migration voulue par Calwell n'est pas suffisamment importante pour remplir ses objectifs.
Et pourtant, pardonnez-moi, je vous interromps une seconde, et pourtant, afin de favoriser ce type d'immigration privilégiée, les voyages vers l'Australie sont même subventionnés. J'avais entendu parler, par exemple, de bateaux London to Perth, pour 10 livres. Alors peut-être que dans les années 50, avec 10 livres, on pouvait acheter 5 Rolls-Royce, mais enfin, ça semble être une somme extrêmement faible. Ça participait de cette volonté d'attirer toujours et prioritairement des immigrés qui ressemblent aux Australiens de l'époque?
Oui, totalement. Vous avez deux choses. Vous avez effectivement la politique à 10 livres, qui à l'époque une somme d'argent très importante, parce qu'en fait, les Britanniques, pour pouvoir venir, il faudrait qu'ils aient les moyens de venir. Or, la traversée des mers jusqu'en Australie est extrêmement coûteuse. Donc, le gouvernement australien dit, écoutez, si c'est un frein pour vous, on va vous donner un peu d'argent pour pouvoir voyager et pour pouvoir vous installer. Ce n'est pas nécessairement une politique qui est ouverte aux autres populations, bien que en 47, l'Australie signe un accord avec l'Agence internationale des réfugiés, hein, sortie de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire venir des migrants baltes, je l'ai dit, mais aussi d'autres migrants. Et ça, en revanche, ça fonctionne un peu mieux, parce qu'entre décembre 47 et 1953, vous avez à peu près 170 000 personnes déplacées du fait du conflit, deuxième conflit mondial, qui viennent s'installer en Australie. Donc, autant la politique d'ouverture à l'immigration et d'accueillir des Britanniques fonctionne, mais disons qu'elle vivote, autant celle d'accueillir des personnes déplacées, hein, qui ont été déplacées du fait de la guerre, du changement des frontières. Donc là, il s'agit vraiment des personnes de pays baltes ou même en Allemagne, des Polonais, etc., sont accueillis en Australie. Et par ailleurs, l'Australie signe des accords bilatéraux avec tout un tas de pays. Ce qui est intéressant dans ces signatures, quand je vais vous donner la chronologie, c'est que on voit bien que l'Australie n'arrive pas à recruter assez de personnes blanches, blanches comme elle le souhaite, et donc se dirige progressivement vers le sud. Accord en 1951 avec les Pays-Bas, en 1952 avec l'Italie, en 1954 avec l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne de l'Ouest et la Grèce. La Finlande, la Suisse, et la Suède et le Danemark, ainsi que la Norvège en 1958, et 10 ans plus tard, en 1968, avec la Turquie. Donc en fait, la politique d'ouverture australienne, elle prend, puisque vous avez des centaines de milliers de personnes qui émigrent pendant ces années, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse de côté la politique de l'Australie blanche. C'est-à-dire que vous pouvez émigrer en Australie toujours et seulement si vous êtes blanc, si vous bénéficiez d'accords bilatéraux, la définition, disons, la coloration de la blancheur évolue. Donc le racisme est encore présent après ce qu'on sait sur la Deuxième Guerre mondiale et sur l'Holocauste. Donc c'est quand même une situation très particulière.
Et alors donc, vous le disiez, par manque d'attractivité, l'Australie finit par accepter que des Européens moins blancs qu'elle le souhaite viennent également en Australie, donc notamment d'Europe du Sud et même d'ailleurs du sud de la Méditerranée. Mais il me semble que pour eux aussi, ça reste très difficile quand ils arrivent. D'ailleurs, il y a un terme péjoratif qui les rassemble tous, qu'ils soient du nord ou du sud de la Méditerranée, c'est les WOG. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire et nous raconter un petit peu comment sont accueillis ces Italiens, ces Grecs, ces Chypriotes qui, on sait aujourd'hui, représentent des communautés de plusieurs centaines de milliers de personnes en Australie?
Oui, alors ce terme qui est péjoratif et raciste et qui est heureusement utilisé de moins en moins, réunit les personnes d'origine méditerranéenne. Donc tout ce qui est pourtour de la Méditerranée, et effectivement c'est au début un peu un backlash culturel parce que l'Australie veut des populations blanches qui puissent s'assimiler. Le but, c'est pas d'avoir un pays arc-en-ciel avec tout plein de communautés. Ça, c'est beaucoup plus tard et dans notre prochain épisode. À l'époque, le but, c'est l'assimilation. L'assimilation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous trempez un Suédois dans une bassine d'Australiens et il ressort australien. Il parle anglais, il est blanc, espérons qu'il devienne protestant, etc., etc. Bien évidemment, ce système d'assimilation, c'est beaucoup plus difficile quand vous le proposez à des populations qui ont une culture, une langue qui est parfois millénaire, pensez aux Grecs par exemple, pensez aux Italiens, qui ont effectivement plus de mal à, au début, s'assimiler dans la population australienne. Pourtant, aujourd'hui, ça fait partie des grandes communautés et même à l'époque, quand même, un des points positifs qui est reconnu par les Australiens eux-mêmes,
C'est qu'on
ce qui est
mange
plus
beaucoup mieux.
important. Voilà, parce que vous passez d'une nourriture essentiellement britannique, et bon, je ne vais même pas passer de commentaires, à quelque chose de quand même beaucoup plus riche et beaucoup plus attrayant. Donc, les Australiens de l'époque, quand ils voient arriver ces groupes d'Italiens, de Grecs, etc., à l'époque, ça se passe plutôt bien parce qu'on est dans une situation de pleine croissance, de plein emploi, que les nouveaux arrivants, on leur donne des postes que les Australiens ne veulent pas nécessairement occuper parce qu'ils sont durs, parce qu'ils sont fatigants, parce qu'ils sont éprouvants, et que ces immigrés travaillent au développement de l'Australie, dans l'industrie métallurgique, dans des projets de barrage, enfin, un développement considérable. Donc, à l'époque, dans les années 50 et 60, les Australiens, dans leur grande majorité, souhaitent que l'Australie demeure blanche. En revanche, ils soutiennent totalement la politique d'immigration majeure qui est mise en place par le gouvernement parce qu'ils en voient les bénéfices. Ils voient que les banlieues s'agrandissent, que les écoles, il y en a plus, qu'il y a plus de transports, qu'il y a plus d'électricité, plus de barrages, plus de production, plus de mets sur les tables australiennes. Donc, les bénéfices de ce plan d'immigration massive sont vraiment vécus dans leur quotidien par les Australiens. Et entre 1945 et 1965, en 20 ans, l'Australie accueille 2 millions d'immigrés. Je répète, 20 ans, 2 millions d'immigrés. En 45, l'Australie, c'est 7 millions d'Australiens.
Ouais, c'est
Donc,
énorme.
c'est absolument énorme. Et comme je vous l'ai dit, c'est de façon générale vécu comme un succès. Tant pour ces migrants à qui un nouveau monde d'opportunités s'ouvre hein, vis-à-vis d'une Europe qui est en train de se reconstruire. Donc, il y a, c'est le plein emploi, c'est l'équivalent des Trente Glorieuses, et c'est un succès également culturel parce que les Australiens, je vous l'ai dit, voient d'un bon œil cette diversification toute relative, puisque effectivement, on sera exposé à un peu plus de cultures, mais c'est des cultures auxquels on accorde de la valeur, les Grecs, les Italiens.
Alors, comme les épisodes précédents, on vous conseille une œuvre qui illustre un petit peu cette période. En l'occurrence, il s'agit d'un film australien qui s'appelle They Are a Weird Mob. Ce sont des gens bizarres en français, on pourrait dire, qui se trouve également sur Netflix. En tout cas, la dernière fois, moi, c'est là que je l'ai vu. J'espère qu'il est toujours dans le catalogue. Et c'est un film plutôt rigolo et qui m'a laissé un petit peu songeur, puisque elle raconte l'histoire d'un immigré italien qui arrive en bateau avec vraiment une main devant, une main derrière et qui se met très vite à travailler dans le bâtiment. Et ça me laisse également songeur, puisqu'en gros, au bout de 6 mois passés en Australie, il a gagné assez d'argent pour construire sa propre maison au bord de la mer dans les banlieues est de Sydney. Voilà, donc c'était possible il y a 60 ans. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Romain, vous l'avez vu, vous, ce film et...
Oui, c'est un film que j'utilise en fait avec mes étudiants. Parce que, effectivement, comme je vous l'ai dit, les études sur l'immigration en Australie sont un champ historiographique en lui-même. Et donc, j'enseigne évidemment l'histoire de l'immigration aux étudiants. Et quand on parle des années 60, j'utilise soit des extraits de ce film, soit tout ce film, parce qu'en fait, bon, il est plutôt drôle, il est assez cocasse, il est daté, mais il représente bien ce moment d'une Australie qui, comment dirais-je, qui a confiance en elle et qui grandit économiquement, l'industrie, etc., et qui accueille des nouveaux migrants qui se retrouvent au bout du monde. Et enfin, c'est assez intéressant en tant que migrant moi-même de voir en fait. Comment quelqu'un qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il parle à peine la langue, va se débrouiller. Effectivement, à l'époque, les opportunités étaient différentes. Mais c'est un film comique, mais c'est un film qui transcrit une certaine réalité de la façon dont les Australiens voulaient se voir eux-mêmes et l'image qu'ils voulaient projeter au monde. C'est aussi un film de propagande, entre guillemets. Le ministère de l'immigration australienne, ça peut vous paraître bizarre quand on connaît ce qu'il est aujourd'hui, à l'époque, promouvait l'Australie un peu partout, avec des affiches, des films, des publicités dans les magazines, etc. Le but, c'était venez en Australie. Alors, il fallait être blanc, évidemment, hein, encore en cette période, mais le but était vraiment d'agrandir la population.
Très bien, eh bien, merci beaucoup Romain Fati et je vous dis à la prochaine pour la quatrième partie de notre série consacrée à l'immigration australienne, à l'histoire de l'immigration australienne. On va s'intéresser aux 25 dernières années du XXe siècle, une période au cours de laquelle l'Australie s'ouvre véritablement et même se fait championne du multiculturalisme. Merci et à très bientôt.
Merci, à très bientôt.